Gloire à notre Dieu. Voilà, ça y est. Il y a l'étude du livre des Actes des apôtres se poursuit dans la congrégation, dans la grâce du Seigneur. Nous nous étions arrêtés mercredi dernier au verset 5 du chapitre 2. Je me rappelle comme si c'était hier. J'avais lu avec vous les versets 1 à 11, et en décortiquant le passage verset par verset, le Seigneur nous a fait la grâce d'arriver au verset 5. Alors, oui, on est en marche, la série est en marche. On rend gloire à notre Dieu pour cela. Et d'abord, je reprends le verset 4, juste pour nous remettre en contexte. Et à verset 4, Actes chapitre 2, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Hein? Le il, je vous disais que le il au pluriel, et ils furent tous remplis, eh bien, fait référence aux 120 hommes et femmes de Dieu, rassemblés pour l'occasion, hein, et un peu comme à l'habitude, vraisemblablement dans la chambre haute. Il y a le Saint-Esprit de Dieu, par l'entremise du docteur Luc, nous fait savoir qu'il y avait en séjour à Jérusalem des hommes pieux, hein, des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, hein, qui sont sous le ciel. J'ai attiré votre attention sur le fait que toutes les nations qui sont sous le ciel fait référence, eh bien, à tous ces pays-là, toutes ces nations-là, au sein desquels le peuple juif s'était réparti, s'était dispersé, ou bien était en diaspora. C'est elles, s'agissant des nations, et eux, s'agissant des pays, qui étaient toutes les nations qui sont sous le ciel. Et verset 6 maintenant, Actes chapitre 2, au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Les entendait, c'est entendait ceux qui étaient possédés par le Saint-Esprit, ceux qui venaient d'être baptisés à les 120 hommes et femmes de Dieu. C'est eux-mêmes qui les entendaient. C'est eux-mêmes qui les. On les entendait, on entendait ces bien-aimés-là, ceux-là qui furent remplis, tous remplis, c'est eux-mêmes. Ils ont été à, et on les entendait parler dans sa propre langue. Alors, ceux qui les entendaient parler dans leur propre langue-là, c'était ceux de la multitude. Hein. C'est la multitude qui a couru et entend au bruit du vent impétueux. Hein. Qui s'est fait entendre. Et la multitude a couru où ça? Mais près du lieu de rassemblement, près de la chambre où les 120 bien-aimés se trouvaient, attendant l'Esprit. Et à l'arrivée de la multitude, hein, à l'arrivée de la multitude, de la foule, on va le dire comme ça, à l'arrivée de la foule, eh bien, la foule est étonnée et la foule était confondue. Parce que chaque membre, chaque personne de la foule, hein, entend les bien-aimés, les 120 hommes et femmes de Dieu, baptisés du Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, possédés par le Saint-Esprit, eh bien, parler dans sa propre langue. C'est-à-dire que si c'était Jodia, Japon, ça qui était un monde qui était habité Japon, qui était venu en fait là, mais il t'attendait en japonais, ça cap dit, t'attendait cet esprit à parler en japonais. C'était quelqu'un en Haïti, si c'était aujourd'hui, hein, qui te vini, qui te tant de brouillard, brouillard, tant qu'on voit un peu sur, qui te vini, regarde ça qui est là, et me dit, t'attends de parler dans créole, hein. C'est des grands Américains qui te courent, vini, regarde, et me dit, t'attends de yo, de t'as qu'à parler, t'as comprendre en français. Si gagne yon moun qui te sorti la France, qui te courent, vini, regarde, t'es vini en fête à Jérusalem, la fête de la Pentecôte, joue ça, et puis qui te parmi foule là, qui t'en découvrira, qui courir vin gade ya, li tap tande bien aimé au kap pale, eh ben, français dans oreilles. C'est un peu de ça qu'il est question ici, mes frères et mes sœurs. Au bruit qui eut lieu, verset 6 à chapitre 2, hein, donc c'est un événement historique, à la fois spirituel, éternel et historique. Voyez-vous, comme la résurrection, comme la naissance du Fils de Dieu. Comme le baptême de Jésus-Christ, c'est un événement historique et spirituel. Ça s'est passé en un temps, en un lieu. Il y a des gens qui sont au courant, il y a des gens qui disent ouais, ça s'est passé, il y a des gens qui racontent ça s'est passé. Voyez-vous? Gloire à notre Dieu. Et on dit déjà dans l'église là, et Samuel est historique ici, il prend deux bagages. Il y a un événement historique, il est déroulé dans un temps et dans un lieu. Et puis, il y a un temps, il y a un lieu pour en faire l'événement historique. Pas oublier ça. Alors, c'est à la fois spirituel, éternel et historique. Gloire à notre Dieu. Comme la crucifixion. Hein? C'est des événements qui ont lieu en un temps, en un lieu. Tout le monde au courant. En tout cas, le monde qui est au courant, au courant. Il y a au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Gloire à Dieu. Maintenant, au verset 7, il est écrit, ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Ils sont étonnés, bien sûr, par rapport à type d'événement qui a Yokurivingadea, qui produit. Mais ils ont étonné tout parce que c'est Galiléen qui a parlé et dans la langue ça hein? Et apparemment le fait que ce sont des Galiléens parce qu'ils posent la question ces gens ne sont-ils pas tous Galiléens et comment ça se fait que nous les entendons parler et à chacun dans notre propre langue voyez-vous donc c'est bien important de comprendre que étonnement basé aussi, non seulement sur l'événement, mais basé aussi sur le monde qui a parlé. Voyez-vous? Il y a une raison historique à cela. Il y a une raison historique à cela, frère et sœur Moyo. C'est habituellement, et les gens des villes, hein, et les gens qui possédaient, et la plupart du temps, une certaine culture, une certaine formation, et ils ont souvent gardé les villageois de Galilée avec mépris. Hein? Ils ont souvent gardé les villageois de Galilée avec mépris. Ils ont toujours cultivé, ils ont espèce de mépris à l'égard de la Galilée et de Galiléens. Moun kap vive la, moun ki soti Galilée, moun ki moun Galilée. Alors, c'est pour ça que moi, comprendre que yo étonné pour deux raisons. Pour l'événement, la merveille même de l'événement, l'événement en lui-même, mais à mon événement en fait là, une pi excite, une pi suscite étonnement, surprise et confusion encore la caillou parce que moun sa yo pas ta supposé capable accompli et bagaille ça, merveille ça. C'est pas eux qui accompli, mais ils en sont l'objet visible de cette merveille, de ce miracle de Dieu. Et voyez-vous, alors Galiléens, ils ont souvent considéré comme un peuple méprisé, dans tant ça, ou capable de songer, et quand Philippe et Nathanaël lui dit que il avait trouvé le Messie ou songé. Il y a une réponse que Nathanaël te bail Philippe, lorsque il te dit, lui, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Hein? Et Nazareth, c'est yon ti kontre nan Galilée. C'est même Galiléa. Hein? Jean 1er, verset 45 à 46. Même Nicodème, quand Nicodème t'a essayé de défendre Jésus, il était convaincu de la messianité de Jésus, de la royauté de Jésus. Il était convaincu, Nicodème, hein, au songer, dans l'échange, il était gagné avec Jésus. Il dit, personne n'est pas capable de faire bagaille ça, s'il pas, et gagné, et s'il pas petit bon Dieu. Et Libra, lui, portait là la défense de Jésus pendant certaines circonstances. Et lui aussi, on lui a adressé des propos de mépris. En Jean 7, verset 52, quand on a demandé à Nicodème, es-tu Galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée, il ne sort point de prophète. Voyez-vous, donc, il y avait comme une sorte de mépris à l'égard, eh bien, de ces bien-aimés-là. Donc, le fait de voir des Galiléens, hein, les gens que la ville, les gens de la ville considéraient comme ignorants, comme rien, comme moins que rien, parler, hein, tant de langues, hein, alors ça les a rendus surpris, étonnés, frères et sœurs. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Donc c'est important pour vous de comprendre que les gens qui parlaient, alors, ils parlaient une langue connue, ils parlaient une langue humaine, une langue compréhensible. Voyez-vous, parce que les gens qui sont venus, de la foule a couru, eh bien, ils ont convaincu que ils étaient comprendre ce que tu as dit dans la langue maternelle, dans la langue maman, à papa. Donc, ces gens-là s'exprimaient. C'est une preuve que le don de l'esprit accompagné de don des langues, du parler en langue, le parler en langue de ses disciples, eh bien, c'était des langues connues. Et incidemment, Docteur Luc, dans son compte-rendu, lui dressait une liste assez exhaustive de différentes personnes, de différents recoins du monde, de différents territoires, de différents de différentes administrations qui ont entendu ces gens-là parler dans leur langue. Hein? Et comment, verset 8, et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun? Dans notre langue maternelle. Donc, notez que la langue que le Saint-Esprit possédait dans les disciples, baptisant les esprits, les disciples, leur permettait de parler, c'était des langues connues, ça c'est important, et c'était des langues humaines, et voilà, identifiées par les gens qui les ont entendues dans leur langue. Et puis, au verset 9, Actes chapitre 2, Dr. Luc nous dresse une liste de territoires, de pays, ou bien d'unités administratives qui étaient d'où étaient venus ces Juifs-là, hein, à la fête. Il parle de Pâques, et d'abord, il dit Pâques, Mèdes, Élamite, et les Pâques vivaient dans ce qui est l'Iran aujourd'hui. Les Pâques vivaient dans ce qui est l'Iran d'aujourd'hui. Les Mèdes sont ces gens-là qui font partie de l'empire de Pâques. Pâques était un empire. Il y avait l'empire romain, mais parallèlement, il y avait l'empire de Pâques aussi. Et l'empire de Pâques n'était pas sous la gouverne de l'empire romain à l'époque. Donc, à Pâques, à lui-même, c'était un empire. Et donc, c'est l'Iran d'aujourd'hui, pas oublié. Et il y avait aussi des Juifs, des personnes venant de la Mésopotamie, donc tout près de deux de grands fleuves d'Égypte, le Tigre et l'Euphrate. Il y en avait aussi, il y avait un grand nombre de Juifs qui étaient déportés en Mésopotamie sous le règne des Assyriens et des Babyloniens, selon 2 Chroniques, chapitre 36, verset 22 et à 23. Donc, ils n'étaient pas retournés en Palestine quand Cyrus l'avait décidé de les libérer Je dis retourner à la caille, nous, monde qui voulait nous mettre tourner à la caille, nous. Je prêchais sous texte ça déjà dans l'église là. Et mes gains, qui étaient dehors, et mes c'est eux-mêmes, et qui va être nommé comme les habitants de la Mésopotamie en ce moment. La Judée, c'était toute la région que David avec Salomon était étant royaume Yosulia du temps où il régnait en Israël. Mais la Cappadoce, le pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, verset 10, hein, et à verset 9 toujours, eh bien, ce sont des territoires de l'Asie mineure qui étaient très importants à l'époque. Il y avait des Juifs, il y avait des gens qui venaient de ces contrées-là à la fête de la Pentecôte aussi, quand cet événement, l'effusion de l'Esprit, s'est produit. C'est ça, Luc fait la rue, là. Luc essaie d'expliquer au paquet de monde qui était là et qui était en démonio, qui a parlé dans langue. Alors, c'est important de comprendre cela. Il parle aussi de la Libye voisine, et la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène. Et au verset 11, il va parler des Crétois, des Arabes. Comment les entendons-nous parler au verset 11, hein, à chapitre 2? Crétois, Arabes, pour clore la liste. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ah, c'est important. Il ne parlait pas pour parler, là. Il adorait le Seigneur, il proclamait les merveilles de Dieu. Probablement, il répétait la prophétie de Joël. Probablement, il répétait la prophétie d'Ézéchiel 36, là. Il faisait référence à la fidélité de Dieu qui a promis l'Esprit et puis qui a donné l'Esprit, très probablement. Donc, il parlait des miracles de Dieu. Hein? Les merveilles de Dieu ici, ce sont les prodiges de Dieu, ce sont les hauts faits de Dieu. Il parlait étant baptisé du Saint-Esprit, et il parlait en langue, mais il disait pas n'importe quoi. Il racontait, il adorait le Seigneur. Parler des merveilles de Dieu est au cœur de l'adoration juive, de l'adoration d'Israël. Vous comprenez ça déjà. Ou les sommes, ou les toutes sommes déjà. Voyez-vous, donc, est au cœur de l'adoration d'Israël. Tout comme c'est au cœur de l'adoration de l'Église aujourd'hui. Hein? Dans le livre d'Exode, il est question des hauts faits de Dieu. Quand, dans Exode 15, verset 11, eh bien, il est écrit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, gloire à Dieu, digne de louange, opérant des prodiges. C'est rare que Israël tenu tient un rassemblement, et puis pour ne pas gagner les merveilles de Dieu à raconter, à exprimer au cœur des rassemblements du peuple de Dieu. Et au psaume 77, verset 12, on voit que parler des merveilles de Dieu aussi est au cœur de l'adoration juive. Tu as multiplié éternel, psaume 40, verset 6a. Tu as multiplié éternel, mon Dieu, tes merveilles, gloire à Dieu. Mais maintenant, on est rendu à psaume 77, verset 12. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois, gloire à Dieu. Donc, les miracles de Dieu, les œuvres de Dieu, les hauts faits de Dieu, les prodiges du Dieu des armées, eh bien, sont au cœur de l'adoration juive. Alors, c'est sans surprise, alors que Dieu vient d'accomplir une promesse, hein, et a faite à son peuple, ils vivent l'accomplissement de cette promesse. Et ils sont en extase. Le peuple de Dieu est en extase et dans la joie. Alors, c'est tout à fait naturel qu'ils soient en train de parler des merveilles de Dieu. Luc ne rentre pas dans les détails de ce qu'il disait, mais les gens qui parlent, c'est eux-mêmes qui disent que, eh bien, ils les ont entendus parler dans leur langue maternelle des merveilles de Dieu. Notre Dieu n'est-il pas grand? Gloire à Dieu. Il y a verset 12, on est mieux pour les versets 12 à 13, ça marche là. Verset 12 à 13. Ils étaient tous dans l'étonnement, ça a été déjà dit, et ne sachant que penser, voyez-vous, c'est important. Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Ben oui, c'est normal. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Bon, ou même, ça fait longtemps observer, bon Dieu, ou dans l'évangile là, ou habitué à bagaille ça déjà. Hein? et nous ou peut-être vivre ça déjà. C'est-à-dire que quand la vérité de l'évangile est proclamée, est présentée, est affirmée, eh bien, certains acceptent, hein, certains de ceux qui écoutent la proclamation de la vérité acceptent la vérité de tout cœur, avec joie dans certains cas, avec empressement. Tandis que d'autres rejettent cette vérité-là. C'est exactement ce que nous avons ici. Alors que les gens parlent des merveilles de Dieu, même moun qui tend des merveilles, bon Dieu, il y a deux réactions en foule. Deux moun tend des mêmes messages. Maintenant, ça, la fois passée, là, même avec vous. Parce que qui savent parler, mais non, t'es là, dans nous. Même moun yo, qui tend des mêmes messages, un même message venant de la même personne, c'est-à-dire de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, tout le monde a des mêmes messages là, même l'heure, dans même l'église là, dans même famille, là, avec chaque bonne réaction différente. Et différente, pardon. Voilà. Un peu dit, mon fou, le sou plutôt. Et puis, il y a l'autre même qui a une attitude, c'est-à-dire plus calme. Il y en a qui s'en moquent en disant qu'ils sont pleins de vin doux. Mais les autres, quand même, ils ne se prononcent pas, mais ça devient un mystère. Hein? Que veut dire ceci? Voyez-vous? Ils vont finir par comprendre que veut dire ceci quand tout à l'heure, quand d'ici quelques versets, l'apôtre Paul va expliquer ce que ceci veut dire. Hein? Il va proclamer l'évangile. Ils vont comprendre. Ou mettre sûr que le monde qui va le convertir tout à l'heure, dans 3000 ans, ou mettre sûr que c'est dans ça que tu as demandé, que veut dire ceci? Mais tout ça que tu as dit, c'est sous mon soi, ou mettre sûr qu'on va convertir. Alors, lorsque vous voyez que vous partagez la vérité de l'évangile, à un titre ou à un autre, et puis vous sentez que il y a des côtés, message là, les reçus, de l'autre côté, le pas reçu, donc c'est pas nouveau. J'ai juste à la leçon pour ce soir, en tout cas, en ce qui a trait à ces deux versets-là, verset 12 et verset 13. C'est pas nouveau, et puis, prenez courage, voilà, prenez courage. Et même devant une merveille extraordinaire comme ça n'a pas l'air là, t'as la même réaction, ça. Il était question d'une double réaction. Voilà. Verset 14 à verset 15, l'oratoire. J'ai pas plus à dire pour vous. Sous verset 12 à 13. Alors, Actes chapitre 2, verset 14 à 15. Alors, Pierre se présentant avec les 11, gloire à Dieu, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, gloire à Dieu, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas sous, ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Gloire à Dieu. Pierre élève la voix. Pourquoi élever la voix? Parce qu'il y avait une multitude, il y avait une foule. Il a fallu qu'il s'assure d'être entendu par la multitude. S'il ne peut pas aller fort, on ne peut pas entendre. Il élève la voix, afin que toute la foule, toute la multitude puisse l'entendre, entendre sa voix, entendre la voix du Seigneur s'exprimer à travers lui, qui était un vil pécheur, un homme inutile. Et avant de donner l'explication de ce qui se passe, Pierre va, le Saint-Esprit de Dieu va donner à la sagesse à cet homme de Dieu, à ce leader extraordinaire que fut l'apôtre Pierre. Il va le commencer par Avant de dire ça gagne, il va le commencer par dire qui ça pas gagne. Avant de dire ça qui ça passe à yé, il va le commencer par réfuter ça que détracteur ou moqueur ou dit lié à. Hein? Ou elle est déjà là, ou bien elle est là. Ou on connaît ce monde qui est attentif. Hein? Il dit, ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Il va dire c'est quoi? Il va le commencer par attaquer mensonge. Il y a fausseté d'abord, moquerie. Gloire à notre Dieu. Hein, ces gens-là ne sont pas ivres, premièrement. Et Pierre va démontrer que cette histoire de dire que ces bien-aimés-là, ces 120 hommes et femmes de Dieu sont sous, Mais tu as dit au fou, oui, mais là, tu dis au sou. Tu vas dire au fou. Mais tu as dit ça, tout c'est déjà arrivé. Et à, il va montrer que son bagage qui est absurde, qui n'a aucun sens de dire ça. Et ça arrive, hein. Quand les gens veulent détruire l'évangile, veulent dire mal de l'évangile, ils déraisonnent. Ils disent n'importe quoi. Ils disent des choses qui ne se cadrent même pas avec la logique, hein, le raisonnement humain. Exactement, même bagaille là, il est là. Pierre dit, il n'est que la troisième heure du jour. Tant pour pas jouer l'évangile, il plutôt dit n'importe quoi. Voyez-vous? Pierre dit, il n'est que la troisième heure du jour. Hein? La troisième heure du jour, c'est 9 h aujourd'hui, à 9 h du matin. Et ça, c'est la troisième heure du jour pour eux-mêmes, n'entend pas eux. Hein? Et pourquoi Pierre dit, il n'est que la troisième heure du jour, à 9 h du matin, même aujourd'hui. Hein? Mais à 9 h du matin, ben, moun pas sous, habituellement. Bien entendu, qu'exception, toute règle d'exception. Mais même les vrais buveurs, la moun ap ton fin de semaine, ap ton aswe, pou yal fè, pou yal fè a fè yo, pou yal bwe, pou yal sou. Alors, comment, ou ta ka comprendre que ces 120 personnes-là sont sous, il n'est que 9 h du matin. C'est ça Pierre dit là, oui, au verset 13, pardon, verset 14. Pierre se présentant et leur parla en ces termes, homme juste, verset 15. Ces gens-là, verset 15 plutôt, ces gens-là ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Pierre est en train de leur dire que, écoutez bien, vous venez de dire n'importe quoi. C'est absurde de penser que, de croire que, de dire que ces bien-aimés-là sont ivres, sont sous, parce que c'est seulement 9 h du matin. Et gloire à Dieu. Hein? Alors, c'est important de comprendre cela. Alors, juste ça suffit pour réfuter, eh bien, accusation d'ivresse, hein? Cette accusation d'ivresse qui est portée contre les hommes et les femmes de Dieu par les détracteurs des merveilles de Dieu, de l'évangile de grâce. Mais cependant, qu'à cela ne tienne, Pierre ne s'arrête pas là. Il va en dire davantage. Il va en dire davantage. Voici. Donc, il finit de dire ça, la paillée. Et puis le prophète dit salier à partir du verset 16. Je vous lis verset 16, même besoin de commenter. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Quoi? Qu'est-ce qui a été dit par le prophète Joël? Voici ce qui a été dit. Deux points, tu vois? Et il met deux points après le verset 16. Et là, il continue de parler. Luc nous rapporte ce que Pierre dit. Dans les derniers jours, mais ça aurait qu'à passer là, mais qui s'allier contrairement à des gens qui sont sourds. Mais s'allier, vous avez noté les bibles, nous sommes en bas. Hein? C'est ça que nous dit Mounsa aussi, parce que nous sommes en bas. Nous ne pouvons pas comprendre les bons dieux t'a proclamé que ça privé là, t'es bien pour le dériver. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Voilà ce qui est arrivé. Gloire à Dieu. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Mais ça arrivé. Ce n'est pas mon qui sont qui arrivent là. Je ferai paraître, c'est Dieu qui parle, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux. Vous aurez compris, je ne pouvais pas m'empêcher de continuer la lecture et je l'apprécie tellement. J'ai commencé à vous lire quand Pierre disait c'est quoi la réalité qu'il voit plutôt que ce qu'il dit, ce qu'il pense, ce qu'il prétend. Et puis moi, je viens de vous lire Acte 2, verset 16 à 20, parce que comme je l'ai dit, j'estime que cela est tout à fait clair. Vous pouvez même vous passer de mes commentaires si vous le voulez bien. Et voyez-vous, mais qu'à cela ne tienne, on va juste s'attarder un peu sur ce qui vient d'être dit. Donc, mais je veux comprendre le portrait. Le portrait, c'est que Pierre prend la parole pour le dire, ça n'en dit pas ça. Bon, logique, très terre à terre, n'importe qui monde 10 ans, t'as capable de comprendre, si monde 5 ans, t'as capable de comprendre, c'est qu'à 9 h du matin, monde va boire pour le sou, en temps normal, premièrement. Et puis l'elfine dit ça qu'on est là, il va le raconter. Que c'est une prophétie qui est accomplie. Hein? Que c'est la prophétie, c'est la parole du Dieu de la parole qui tient parole et qui accomplit sa parole. Et alors que ces gens-là témoignent des merveilles de Dieu dans les langues de tous ceux et de toutes celles qui étaient venues au bruit du vent impétueux, de ce qui s'apparentait à un vent impétueux. Bon, voilà. Donc, je répète après Pierre pour vous, hein, ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte, l'effusion de l'esprit, hein, l'effusion de l'esprit accompagnée du parler en langue, ou bien le baptême du Saint-Esprit, la plénitude du Saint-Esprit accompagnée du parler en langue, n'est pas de l'ivrogne, n'est pas un comportement d'ivresse, n'est pas de l'ivresse, c'est plutôt, eh bien, l'accomplissement des saintes et à éternelle promesse de Dieu. Et à, premièrement, et Joël 2, alors, le passage que, il y a un autre prédicateur, il y a un autre homme de Dieu qui n'a d'exact comme ça. Le passage qui vient d'être lu ici, c'est Joël 2, verset 28 à 32. C'est le même Pierre cité là, OK? Pierre vient de citer Joël 2, verset 28 à 32. La parole prophétique que l'apôtre Pierre vient de citer, eh bien, il la tire, hein, de Joël 2, verset 28 à 32. Mais, ou même avec un autre gars d'Ézéchiel 36 aussi, à 30, hein, et un peu à 37 aussi, hein, et il y a quelques mois de cela. On aurait pu invoquer à la barre, eh bien, Ézéchiel 36 aussi, parce que là aussi, l'esprit a été promis. Je répandais de mon esprit sur toute chair. On a étudié ça il y a quelques mois, peut-être au printemps, je ne me rappelle plus. Alors voilà. Maintenant, l'expression dans les derniers jours, c'est important. Hein? Dans les derniers jours, Pierre dit, hein, et verset 17, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Bon, dans les derniers jours, suppose le temps, dans tête, dans esprit, parole prophétique, là, les derniers jours, eh bien, c'est le temps où le Messie viendrait établir son royaume. On dit déjà dans la congrégation, depuis le jour Jésus fait là, dernier jour a commencé. Non, dans les derniers jours. Pourquoi? Mais parce que dans l'esprit prophétique, hein, dans l'esprit prophétique, dernier jour, eh bien, c'est le jour de la venue du royaume. Et moi, j'ai déjà enseigné dans la congrégation pendant 6 mois que le royaume est venu à la naissance du roi du royaume, en l'occurrence à la naissance de Jésus de Nazareth. Voilà notre Dieu. Mais bon, l'autre le tout. Bon, l'autre le tout. Ah, ok, on a quitté ça pour l'autre l'heure. Donc, c'est bien important de comprendre cela. Dans les derniers jours, il y a dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y a la venue de Christ, hein, la venue de Christ, la naissance de Christ, eh bien, procède à ça nous relève l'inauguration des derniers jours. Ok? L'inauguration du royaume, ou pas qu'à séparer de l'inauguration des derniers jours. Voilà. Voilà. Et bien évidemment, l'apôtre Jean dira en 1 Jean 2, verset 18a, petits enfants, c'est la dernière heure. Quand il dit la dernière heure, mais il fait référence au dernier jour. Très gloire à Dieu. Et l'apôtre Pierre aussi va faire référence à la fin des temps, pour parler des derniers jours aussi. Hein, quand il va dire en 1 Pierre 1er, verset 20, et Christ fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Le Christ fut manifesté à la fin des temps. Voyez-vous, dernière heure, fin des temps, dernier jour, c'est même bagarre-là, c'est le jour de l'établissement de l'inauguration du royaume de Dieu à la personne de Jésus. Donc, depuis le jour où Jésus avait tombé dans le berceau, eh bien, royaumement, l'inaugurer, l'arriver. Bien sûr, il va le développer, en gestation. Mais voilà, jusqu'à présent, le royaume a continué de développer. Mais l'inauguration royaume a fait arriver à la naissance, à la venue, eh bien, du roi du royaume. J'en ai parlé amplement ou bien abondamment dans la congrégation. L'auteur de la lettre aux Hébreux n'est pas en reste. Ils ont dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé, vous songez, nous a parlé par les filles, par le Fils. Hébreux 1er verset 2. Donc voilà pourquoi nous, les étudiants baptistes, nous considérons les derniers jours ici comme étant un jour qui est déjà venu. Hein? Et nous avons tellement de références des écrits du Nouveau Testament, des expressions synonymes eh bien, du dernier jour qui nous font comprendre que Et bien, le dernier jour est venu avec Christ. Dernier jour dans l'Ancien Testament, il est venu avec Christ. Mais il y a un autre bagage à dire aussi là-dessus, si tu veux, mais ça va être à un autre moment pour ne pas vous donner trop d'informations. Voilà. Il dit, et maintenant, à la fin des siècles, Christ a paru une seule fois pour effacer le péché par son sacrifice. Voyez-vous, dernier jour, dernière heure, fin des siècles, fin des temps, toutes ces expressions synonymes. Ici, nous avons évoqué Acte 9, Hébreux 9, verset 26. Et avant, quand j'ai dit dans les derniers jours, quand le texte dit Hébreux, c'est Hébreux 1er, verset 2, qui a dit dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Voyez-vous? Donc, comprenez bien sur quoi Pasteur a campé. Pour qui ça, Pasteur a campé? On dit que, eh bien, dernier jour, que Saka parlait là, que Pierre parlait là, que Joël parlait, eh bien, il vit avec, eh bien, le royaume de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Et cela dit, mon bagage est bien important. Mon bagage est bien important, là, on va le régler là. Oui, il est 47. C'est important. La prophétie de Joël, et là je parle lentement. Prophétie Joël, là. Accomplissement parfait. Accomplissement définitif. Prophétie ça que Pierre évoquait là. La fête, nous dit parfait. Nous avons début de l'accomplissement de cette prophétie ici, mais toute prophétie n'a pas accompli le jour de la Pentecôte. Le jour de l'effusion de l'Esprit. Nous avons partie dans la prophétie qui a accompli. L'accomplissement parfait, même pas total, plutôt parfait, de cette prophétie se réalisera dans le royaume millénaire. OK? Mais ici, nous avons quelques aspects. Ça arrive dans pile prophétie, bon Dieu. Ça s'est accompli dans ces quelques aspects de cette prophétie évoquée qui sont accomplis. Et là, Pierre évoqué là, Pierre n'est pas en train de dire que tout aspect prophétie a été accompli non plus. Pierre seulement, on est bon aspect dans la prophétie a été accompli. L'évoquer, tant qu'à le faire, tant qu'à y être, il évoque tous les autres aspects de la prophétie. Mais pour être sûr que Pierre avait à l'esprit que c'est un aspect ou quelques aspects de la prophétie qui était accompli, qu'un autre qui pourra accomplir dans le futur. C'est vrai concernant beaucoup de prophéties de l'Ancien Testament. C'est très important pour comprendre ça. Parce que les ennemis de doctrine, ça n'a pas les là. Et quand nous disons les ennemis, nous ne parlons pas de le monde non là, du monde non là. Nous parlons des hommes et des femmes de Dieu qui ne sont pas tout à fait d'accord avec cette approche du baptisme. Hein? Quelques amis pentecôtistes, pas fin d'accord non là. Quelques amis charismatiques, pas fin d'accord là. C'est pour ça qu'on va aller bien doucement dans ce moment-là. Là. Ça, c'est la théologie baptiste, là. OK? Le jour de la Pentecôte, Dieu a donné un aperçu de la puissance que le Saint-Esprit de Dieu va libérer dans le royaume. OK? Nous autres, les croyants de l'ère de l'Église, de l'époque de l'Église, maintenant, nous avons, à travers l'effusion de l'Esprit, et tout ça n'a joué dans l'évangile là qu'on y a là, c'est des avant-goûts du royaume. Et pour eux-mêmes, le baptême de l'Esprit que tu as joué là, il t'a proclamé les merveilles de Dieu à l'occasion du baptême de l'Esprit. Pour eux aussi, c'était les avant-goûts du royaume, des choses à venir. Et pour nous, c'est la même chose. Ça veut dire quoi, pasteur? Ça veut dire que le gros de la chose, le gros de la bénédiction se réalisera, se donnera, s'accomplira à l'avènement du royaume de 1000 ans. On en a parlé abondamment dans la congrégation. et l'oratoire. Peuple du Seigneur, pour le monde qui est attentif, qui comprend la Bible, même l'on parle dans le royaume millénaire, on parle juif, on parle du royaume millénaire là. L'IPAP, c'est pas avant vous la pied par rapport à ce qu'on a vu dans l'éternité, béni. Après le jugement dernier, le ballon entraîne Apocalypse 21. C'est pas l'autre bagaille par rapport à ce qu'on a vu dans le royaume millénaire. Bon, progression dans l'accomplissement des promesses de Dieu, dans la révélation de Dieu, bon, progression, mais dans la réalisation de la révélation de Dieu, bon, progression. L'Écriture nous impose une progression. Ça se fait step by step, étape par étape. Gloire à notre Dieu. Allons parler maintenant rapidement, là, parce que déjà 52. Bon, on est en bas en paix, mais nous y reviendrons si Dieu veut. De quelques bagailles. Là, c'est seulement le baptême de l'Esprit qui est donné. Tout le reste, ce n'est pas pour le mettre, c'est pas pour maintenant. Maintenant, s'entend, le bien-aimé t'a pour recevoir le baptême de l'Esprit. Hein? Mais c'est ça, c'est ça, c'est ça maintenant. Et tout côté n'a parlé là, c'est le même maintenant encore. Il y a un peu de bagaille qui dit là, pas accompli jour ça, le jour de la Pentecôte. Voici quelques exemples. Vos fils et vos filles prophétiseront, l'hypocrite accompli. C'est un royaume millénaire n'a pas accompli. Vos jeunes gens auront des visions, c'est un royaume millénaire n'a pas accompli. Vos vieillards auront des songes, c'est un royaume millénaire n'a pas accompli. C'est alors, dit Dieu, que même sur mes serviteurs et mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Il est vrai, dans le temps de l'Église, il y a eu des prophètes. Ces hommes-là, bien sûr, ils ont eu un avant-goût de la prophétie à venir. Mais même le ministère prophétique, la preuve, c'est que nous n'avons plus maintenant le ministère prophétique sous forme directe. Voyez-vous, on l'a eu pour un temps et il s'est estompé, ce ministère-là. Maintenant, nous avons la prophétie indirecte. Donc, ça m'a fait là, c'est prophétiser, m'a prophétisé, mais de manière indirecte, dans une inspiration indirecte. Donc, ça s'en vient. Ce n'est pas pour maintenant, autrement dit. Gloire à Dieu. On va arrêter là, si ça me va le dire, parce que j'ai besoin pour parler. On va pour parler dimanche là. En ce qui a trait aux prophéties, les songes, les visions, texte n'a pas de détails sur la nature des songes, sur la nature des visions, ni sur la nature des prophéties. Hein? Et Dieu décide de garder ça pour lui. Ça aurait été un mystère. Il y en a un qui se proclame prophète pour remplir vide là. Ça, bon Dieu, pas dit. Hein? Il décide de faire bon Dieu, dit lui. Et puis, il fait être prophète, mais c'est leur problème. Et même Jean pour les apôtres. Il y en a un qui va se proclamer apôtre, mais c'est son problème. Mais nous comprenons qu'ici, Dieu ne révèle pas la nature de la prophétie qui sera donnée. Il n'y a ni de la vision, ni des visions, ni des songes. Ou même avec mon autre vision, moi, j'ai des visions, j'ai des songes. Dieu me parle, Dieu vous parle. Mais ici, Dieu ne dit rien de façon directe en ce qui a trait à ça que lui promet là. Le don de la prophétie dans l'Église primitive existait directement, mais indirectement, ça n'existe plus. Voilà. On s'arrête ici. Je vais éteindre la caméra. Ah, pardon. Je vais éteindre l'enregistrement. Histoire de vous laisser quelques minutes si vous avez peut-être quelque chose à dire, à demander, à partager. Ça nous fera plaisir de vous accorder cette opportunité-là.